Le vicaire des Ardennes, dixième partie. Le vicaire dormait, agité par un songe pénible. Il rêvait que Mélanie, au milieu des jouissances les plus pures et les plus vives, regardait la tête de son cher Joseph. Alors, une pâleur mortelle couvrait son front. Elle devenait immobile et froide. Sur sa bouche errait le sourire de l'innocence, et par la manière dont ses yeux se fermaient, le vicaire apercevait que son dernier regard, avant d'abaisser sa paupière, avait été pour lui. Puis, après ce geste douloureux, il voyait Mélanie entourée de feux extrêmement brillants. Son visage était semblable à celui d'une sainte, ses vêtements comme tissus d'un fil d'argent, ses cheveux en désordre, sa pose aérienne. En cet état, elle s'élevait vers les cieux et lui faisait signe du doigt de la suivre. Il se trouvait à terre dans une convulsion terrible, cherchant à obéir aux doux signes de son ami, et ne le pouvant pas, il s'indignait, levait les bras. Mais un obstacle insurmontable le retenait, enchaîné sur la terre. Dans le lointain, il apercevait une pierre sépulcrale qui se levait lentement et laissait apercevoir le cadavre de M. de Saint-André. Plus loin encore, il distinguait à peine Madame de Raucourt et il entendait ses larmes, sans pouvoir s'approcher d'elle. Il s'éveille en sursaut. Il écoute, et son nom, prononcé vivement, frappe son oreille. Alors il se lève et voit briller de la lumière à travers les fentes de la porte qui le sépare de l'autre appartement. Joseph s'approche et il cherche à distinguer quels sont les hommes qui parlent à cette heure. Il reconnaît Argot et son complice. « C'est son prétendu fils, te dis-je, » répétait Argot. « Et pendant que l'on va chercher nos chevaux, il faudrait, reprit Vernier, « il faudrait résoudre quelque chose. La bonne femme va tout trahir, elle s'est échappée. Tu viens d'entendre ce qu'a dit Corbulne, c'est une imprudence. »« Bah, si la petite est bien enfermée, je défie que la vieille sache se retourner, elle ne connaît rien. Et d'ailleurs, elle restera aux environs du château. Nous allons nous y rendre et veiller à tout cela. » « Tu désespères toujours. » En disant cela, Argot tenait un rouleau de papier avec lequel il frappait sur une table. « Qu'est-ce que tu as là ? » demanda Vernier. « Ce n'est rien, c'est le journal de la petite, ce qu'elle écrivait tous les jours. Des fadaises. » Et il jeta le rouleau sur une autre table. « Eh bien, à quoi penses-tu donc ? Les chevaux viennent, tu as payé l'hôtesse ? »
« Je pense que, puisque ce jeune homme dort, il ne nous en coûterait pas plus de l'envoyer dormir au diable. »
Ces paroles firent frémir Joseph, car Argot, en les prononçant, indiquait du doigt la porte par où le vicaire regardait. Et pour Joseph, périr sans avoir revu Mélanie, alors que leur amour devenait innocent, c'était la mort la plus amère et la plus horrible. Il frémit et contempla sa chambre pour voir s'il pourrait fuir et faire arrêter le pirate.
« Il m'a reconnu, » continua Argot, « et il est homme à me poursuivre. Il n'y a rien à craindre comme les jeunes gens, parce qu'ils sont exaltés. L'intérêt, le péril ne peuvent rien sur eux. Et... tiens, allons. »«
Non, » dit Vernier, « il mourrait comme l'autre, et les chirurgiens pourraient fort bien...
deux, les mêmes symptômes.
Voilà la première bonne raison que tu m'aies donnée de ta vie. Cependant, songe donc qu'il ne reste aucune trace, que rien ne peut nous faire découvrir.
C'est un coup de sang. Le sang se glace. Notre sûreté.
Je sais bien que le diable ne nous trouvera pas ici, car j'espère que nous allons faire un tour à la Colombie. Prendre des lettres de marque, nous mettre au service de la République et houspiller les Espagnols. Il faut laisser oublier cette affaire-ci.
Lâche ! C'est au dernier moment que nous courrons par là. L'Angleterre, la Suède, le Danemark, la Russie ne nous ont pas graciés comme à Charlottetown. Et va, l'endroit le plus sûr pour nous, c'est Paris.
Mais tu abandonneras donc la petite ?
Non. « Je veux l'épouser, je l'aime. »
À ce mot, Vernier se prit à rire.
Mais Argot, se retournant tout à coup vers lui en grinçant les dents, arrêta dans la gorge de son lieutenant cet éclat d'une gaieté intempestive.
« Tu vas donc donner des ordres à Corbulde ?»
reprit Vernier, devenu sérieux.
« Oui !»
Ce « oui » prolongé annonçait qu'Argot pensait toujours à son dessein. Quelque courageux que fût le vicaire, il frissonnait. Et en voyant les yeux terribles du pirate fixés sur la porte, il ne pouvait s'empêcher de se croire découvert.
« Tiens, Vernier, il faut que je me passe cette fantaisie. »«
Argot, mon ami, c'est un crime inutile, crois-moi, s'il nous poursuit. À la bonne heure, j'admets tout ce qui est nécessaire. »
En disant cela, Vernier prêtait l'oreille comme pour tâcher d'entendre si les chevaux ne venaient pas. Et le vicaire lisait sur sa figure le désir qu'avait le lieutenant de partir.
« Allons, » dit Argot, « les chevaux ne viennent pas, j'ai le temps. »
Argot sortit et fut suivi de son complice qui lui parlait toujours.
Jamais le vicaire n'aima la vie comme en ce moment. Il en connaissait tout le prix, il se serait défendu comme un lion. Mais il avait vu Argot sans armes, et une idée vague de trahison se glissait dans son âme. Un pressentiment secret lui disait qu'il fallait employer la ruse. Alors, il eut la présence d'esprit d'ôter l'affiche des gonds de la porte condamnée, et au moment où Argot entrait dans sa chambre, il passa dans celle des deux pirates. Le matelot, ayant forcé la serrure, s'avança sans lumière dans la chambre du vicaire. Joseph le vit plonger sa main dans le lit à plusieurs reprises. En ce moment, les chevaux de poste demandés par Joseph entrèrent dans l'auberge avec ceux d'Argot. Vernier s'écria «
Argot, Argot, voici notre Auvergnat et la fille !»«
C'est fait !»
dit à voix basse le pirate, et il s'élança dans les escaliers avec Vernier. Joseph, stupéfait du danger qu'il avait couru, restait immobile. Et il tenait, sans s'en apercevoir, le rouleau de papier que le matelot avait jeté avec dédain. Le vicaire, s'entendant appeler, reparut dans sa chambre. Il rétablit la porte, et la servante lui dit que sa voiture était prête.
« Savez-vous, demanda-t-il à la jeune fille, où ces exécrables coquins ont ordonné de les mener ?»«
À son château de Vence, a dit le gros monsieur. »
Paraissait-il ému ?
Oui, très ému, répondit la servante, car il riait à gorge déployée.
Il riait, mon enfant ? S'écria le vicaire.
Tenez, ajouta-t-il, je vais vous charger d'une commission dont j'espère que vous vous acquitterez. Allez chez monsieur de Saint-André, mon oncle. Vous lui direz que monsieur Joseph a été pour lui présenter ses respects à 8 heures environ. Qu'il a été forcé de sortir sur le champ sans avoir le temps d'embrasser son père.
« Quoi ? » s'écria la servante. « Vous êtes le neveu de monseigneur ?»«
Oui, » dit Joseph en remettant une pièce de 5 francs à la servante. « Et tenez, mon enfant, gardez cette pièce de monnaie. Si vous aimez un jour, souvenez-vous de monsieur Joseph. Et si vous épousez celui que vous chérissez, pensez encore à moi. »
La servante, émue du ton que le jeune prêtre mit à ses paroles, l'accompagna jusqu'à sa voiture. Il donna l'ordre d'aller à Paris et promit au postillon un pourboire qui fut cause que tous les habitants d'A y furent réveillés par le claquement du fouet du postillon. Au moment où le vicaire était entraîné avec la rapidité de la foudre et que la servante allait fermer la porte après avoir suivi la voiture des yeux,
« Qui potest capere capiat ?» s'écria une voix. « Ce qui veut dire, ma belle enfant, qu'en prenant du galon, on en saurait trop prendre. » Et il l'embrassa 2 ou 3 fois de suite. Elle se mit à crier.
« Chut, chut !» répliqua le sec. « Vous êtes la servante de la meilleure auberge d'A. Ainsi, c'est ici que notre vicaire, monsieur Joseph, a dû venir. »
« Un beau jeune homme brun qui court à Paris sans attendre les habits qu'il a commandés. »«
Non, mon jeune prêtre en a assez. Ce n'est pas comme moi. Vestes usata semper. Le neveu de Monseigneur !» s'écria la servante. « Il paraît bien triste, ce jeune homme. »«
C'est cela même, » répondit le sec. « Où est-il ? Où va-t-il ? » ?»«
Il est resté ici toute la journée. Il vient de partir pour Paris et... »
Le sec, sans attendre la fin de la harangue, était remonté sur son cheval et galopait vers René le vicomte. Instruire Madame de Raucourt de la fuite de son fils. Recevoir les 1200 francs promis, mettre Joséphine au désespoir de n'en pas savoir davantage, et assister à tous les conciliabules que l'on tiendrait dans le village, où tout était bouleversé depuis le départ de Joseph. Cependant, le vicaire, enfoncé dans un coin de sa mauvaise chaise, réfléchissait à tous les événements qu'il avait assaillis dans cette courte soirée. Ses pensées trouvaient une nouvelle matière dans le danger auquel il échappait, la scélératesse d'Argot et son impunité. La multitude de ses idées l'obsédait. Mais enfin, il en revint à Mélanie, qu'il allait revoir. Et cette douce rêverie, le subjuguant tout entier, chassa toutes les autres idées, même le souvenir de sa mère, Madame de Raucourt, dont le dévouement l'avait d'abord attendri. En montant en voiture, il jeta le rouleau de papier dans un coin, comme une chose qui gêne, et appuyé contre un des côtés de la chaise, il resta plongé dans ce demi-sommeil qui résulte d'une profonde préoccupation. Ce fut ainsi qu'il arriva à Vanslapavé. C'était à ce village que se trouvait la première poste après A. Vanslapavé touchait à la forêt, connaît le vicomte et sa charmante vallée, terminée de l'autre côté d'une manière si pittoresque. Au commencement de cette vaste forêt, on voyait l'immense château qui jadis appartenait à la famille Blacanville et qu'Argot avait acheté depuis un an. La cessation de ce mouvement rapide de la voiture tira Joseph de sa mélancolie. Il demanda au postillon où il était. « Avance la pavée !» lui répondit-il. Joseph sauta hors de la voiture en annonçant l'intention de s'y arrêter quelques minutes. Il demanda à parler au maître et aussitôt on l'introduisit dans la chambre du maître de poste qui, par un effet du hasard, était maire de la commune de Vence. « Monsieur, lui dit Joseph, il y a 20 et quelques années, une jeune fille... »«
C'était avant la Révolution, » dit le maire.
« Oui, monsieur, une jeune fille de qualité, déguisée probablement, est venue accoucher ici. »
« Elles n'en font pas d'autres !»
interrompit le maire, ennemi acharné de la casté nobiliaire.
« Avant comme après la Révolution, les enfants ont toujours été leur train. Ces femmes...
Mais, mon ami, c'est pour cela que nous venons au monde !»
dit une jeune femme en se mettant sur son séant.
« Me voilà perdue !»
s'écria le maître de poste en montrant au vicaire une figure assez âgée.
« Monsieur, reprit Joseph, je désirerais savoir si la femme chez laquelle cette jeune fille se logea existe encore.
« Certainement,
répondit la femme, c'est la sœur de la concierge du château donné le vicomte. J'ai entendu conter cette histoire. Un ecclésiastique, une jeune personne, jolie comme les amours.
« C'est cela, madame, dit Joseph.
« Monsieur, je vous prie d'avoir la bonté de dire au maire d'envoyer l'acte de naissance de l'enfant. »«
Le maire, c'est moi !»
s'écria le maître de poste.
« Je tiens cette dignité de la faveur royale et du choix de mes concitoyens. »«
Monsieur, je vais vous laisser le prix de cet acte en vous suppliant de l'envoyer à Paris, à l'adresse que j'écrirai au bas. »
Joseph n'entendit plus que la voix du maire qui gronda sa femme. En descendant, le vicaire réfléchit qu'il devait au moins aller voir la cabane où Madame de Raucourt l'avait mis au monde. Il se fit indiquer la demeure de la sœur de Marie, et un postillon le conduisit au bout du village, du côté de la forêt et du château. Le vicaire frappa à la porte d'une maison presque ruinée, couverte d'un toit de chaume. Une vieille femme, ridée, décrépite, ouvrit, et elle remua les cendres du foyer pour éclairer sa chaumière.
À la faveur de cette lueur vacillante, Joseph jeta un rapide coup d'œil sur cet asile de la misère, et un sentiment doux, mais pénible, s'empara de son âme.
« Et quoi ? » s'écria-t-il. « C'est ici que j'ai commencé à respirer pour la première fois ? C'est ici que j'ai jeté mon premier regard ? Mon premier cri ? Oh, ma mère ! Ô tendre et malheureuse femme, que je me reproche de ne pas avoir assez vu. C'est ici que tu as souffert. Salut, cabane chérie. Je relèverai ton toit en ruine. Je veux que l'être qui habitera ce lieu soit heureux autant que peut l'être un mortel.
Et quoi ? C'est vous que cette pauvre petite dame a mis au monde ? S'écria la vieille femme. C'est moi qui vous ai reçue dans mes bras. Le prêtre était là, et elle montra un fauteuil vermoulu. Votre mère souffrait.
Elle souffrait, dit le vicaire avec un accent de pitié touchant,
sur ce lit qui était meilleur. Il deviendra ce qu'il doit être. Pauvre femme, quelle misère!
Joseph se fit apporter de l'encre et écrivit à madame de Raucourt.
Oh, ma mère! C'est de la chaumière où retentirent vos cris de douleur que je veux vous écrire. C'est pénétré d'une éternelle reconnaissance que je m'adresse à votre cœur. Je comprends maintenant le secret de cet amour qui était si tendre, si profond, que nous en avons méconnu la source. Oh, je reviendrai à Aunay. Je brûle de vous serrer dans mes bras, de pleurer dans le sein d'une mère. Un jour, appuyé sur votre cœur, j'y verserai le secret de mes maux, qui maintenant ont un cruel remède. J'admire la bizarrerie des événements qui m'ont séparé de vous. Croyez qu'après un désir qui tient, malgré moi, la première place dans mon cœur, le plus sincère de mes souhaits est de vous embrasser. Si le destin ne m'entraînait, j'aurais volé dans vos bras aussitôt que j'ai appris le secret de ma naissance et de votre admirable dévouement. En ce moment, cependant, tout en moi se tait au souvenir de vos douleurs et à l'aspect du toit chéri où furtivement vous m'avez donné le jour. Cette faute de votre jeunesse vous rend plus chère à mon cœur, parce que je sens tout ce que mon amour vous doit de plus qu'à une autre mère. Entendez, en lisant cette lettre, entendez la voix de votre fils qui vous remercie, qui vous voit. Songez qu'à cette place, j'ai attaché l'idée du baiser le plus respectueux et le plus tendre. Votre image est à mes côtés. Je vous vois sur ce lit. Je pleure en croyant vous entendre gémir, et cette masure me semble un palais. Adieu. La pauvre femme qui habite cette demeure est pauvre. Je veux qu'ensemble nous l'enrichissions, qu'ensemble nous fassions relever son toit. Cette première de nos actions doit nous être commune, et il n'y a que cette femme qui puisse vous porter cette lettre. Joseph. Tenez, ma bonne mère, dit le vicaire tout ému, vous partirez ce matin et vous vous rendrez au château d'Aunay le Vicomte. Vous demanderez madame de Raucourt.
Jamais je n'oserai, dit la paysanne honteuse.
Allez, allez. Vous serez bien reçu en lui présentant cette lettre. »
Et le vicaire, parcourant des yeux cette chaumière délabrée, sortit, accompagné de la paysanne étonnée. Appuyé contre la porte, le postillon, immobile, regardait au loin. Le vicaire lui demanda ce qu'il voyait. « Tenez, monsieur, voyez-vous là-bas, sur la terrasse du château ?» Les premières teintes du crépuscule permettaient à peine de distinguer les objets. Néanmoins, Joseph aperçut sur une petite terrasse au-dessus d'une rivière une jeune fille assise au milieu d'un massif de verdure. Elle chantait. La distance ne laissait parvenir que des sons indistincts d'une mélancolie extrême. La jeune fille restait immobile. Son attitude et sa pose donnaient à penser, car elle semblait considérer le précipice, comme Sappho dut regarder le sceau de Leucade avant de s'y engloutir. Cette femme, vêtue de blanc, assise sur les fortifications du château entourée d'eau, le vague indéfini des couleurs de la première aurore, tout rendait ce spectacle extraordinaire.
Aussi, ces circonstances plongèrent-elles le vicaire dans une sorte d'extase. Il tâchait d'écouter et de voir, sans pouvoir saisir un son ni apercevoir un trait. Une imagination romanesque aurait cru entrevoir une des filles de l'air que Girodet et Gérard ont placée dans leur tableau d'Ossian. Cette femme, semblable à une ombre légère, apparaissait comme le génie de l'antique féodalité pleurant sur des ruines. « C'est, dit le postillon, la malheureuse petite femme que M. Maxandy a amenée. On la dit folle, et ceux qui entendent ses discours prétendent qu'elle est folle d'amour. » « On dit, reprit la vieille femme, qu'elle n'est pas plus folle que moi, et que M. Maxandy l'a enlevée. »«
Quoi ? C'est le château d'Argo ? »
s'écria le vicaire, tiré de sa rêverie par le nom de Maxandy. Néanmoins, il ne donna pas suite à ses paroles, parce qu'un charme irrésistible le contraignit à revenir contempler ce spectacle, qui lui inspira un pressentiment douloureux. Une crainte vague s'emparait déjà de son esprit, car les amants craignent tout. À cet instant, une modulation plus distincte parvint à l'oreille de Joseph. Il lui sembla avoir entendu Mélanie. Mais il s'accusa de folie et se laissa entraîner par le postillon, sans seulement s'en apercevoir, car tout en s'en allant regagner sa voiture, il regardait toujours le château, dont l'ensemble imposant et les vastes constructions se doraient des premiers feux du jour. Au dernier regard qu'il jeta, il crut voir que la jeune fille agitait son mouchoir. Ce geste le fit tressaillir. « Elle demande du secours, se dit-il. Je voudrais la voir. »«
Les chevaux attendent, monsieur. » »«
Elle est malheureuse. Si je restais pour m'informer de cette aventure. »
« Monsieur, monsieur !»
dit le postillon en faisant claquer son fouet. Le vicaire partit. Chapitre 23. Je ne connais rien de plus terrible que la solitude pour une âme grande et forte qu'une commotion violente a jetée dans cette profonde méditation où l'esprit finit par s'égarer. Le spectacle dont le vicaire venait d'être témoin avait été pour lui comme un rêve, et ce rêve dura pendant longtemps, parce que la rapidité avec laquelle on l'entraîna ajoutait à cette disposition de son âme. Sans dormir, il avait toutes les lourdes sensations d'un songe, et ce songe était étouffant par la crainte vague que la dernière modulation de la jeune fille avait imprimée à son âme. Joseph arriva aux portes de Paris, qu'il frappait encore son genou avec le rouleau de papier qu'Argo avait jeté avec tant de dédain. Il finit cependant par s'étonner de sa constance à tenir ses papiers, et en les regardant, la pensée qu'il avait eue de les lire revint s'offrir à sa mémoire. Il déroule ce papier dédaigné, jette les yeux dessus, reconnaît l'écriture de Mélanie, et tout son sang semble vouloir abandonner son cœur. Il pâlit et se pencha sur le coussin qui garnissait le coin de sa voiture.
« Et quoi ? » pensa-t-il. Argo parlait de Mélanie ? C'est elle que j'ai vue ! »
Une effroyable série de malheurs se déroula devant ses yeux. Son esprit s'égara, il devint incapable de penser. Enfin, il reporta ses yeux sur le fatal papier et lut ce qui suit. Journal de Mélanie.
Je suis mieux, mais je suis seule. Oh, mon frère, je ne puis m'occuper que de toi. Quand l'aurore apparut, j'ai trouvé la maison grande, triste, vide. Il me semble que tout porte ton deuil. Je veux chaque jour t'écrire un mot, te parler comme si je t'avais à mes côtés. Ah, Joseph, que les journées sont longues depuis que je ne te vois plus. Je ne vis plus que de la vie du corps. Il m'est impossible de méditer et de penser. J'essaie de rassembler mes idées, mais mes yeux errent sur le plafond, sur les meubles, je cherche quelque chose qui n'est plus. J'habite une tombe où rien ne me sourit. Joseph, mon ami, mes nuits sont plus affreuses que mes jours. Les songes les plus effrayants m'assiègent. Ce matin, j'ai commencé à faire une entaille sur un morceau de bois pour marquer chaque jour et voir combien j'en passerai sans vivre.
Que fais-tu, toi ? Tu as laissé une plume sur ton bureau, je m'en suis emparée avec avidité. C'est avec celle-là que j'écrirai désormais. Quand je l'ai saisie, j'ai cru te posséder. Un instant après, j'ai pleuré. J'ai vu que j'étais seule avec mes souvenirs. Il est minuit, une lampe m'éclaire. Pas un zéphyr ne rafraîchit l'air. Tout se tait. Au milieu de ce profond silence, seule je suis agitée. Seule je veille, car je t'ai vue. Oui, je t'ai vue, toi que je n'ose nommer. Ta noble figure vient de m'apparaître dans un rêve, et cette vision m'a inondée d'une joie douce et balsamique, comme l'odeur fugitive d'une fleur des champs. Ton âme voltige dans cette chambre, trop petite pour mes émotions. Oh, mon époux chéri, je te sens à mes côtés. Quoi ? Ce n'est qu'un rêve, et je le vois. Rêve d'amour, nuit enflammée. Joseph, je meurs. Aujourd'hui, je suis restée immobile, sans penser à rien et sans éprouver aucune fatigue dans l'âme. Ton image me poursuit. Madame Hamel est devant moi, je ne la vois point. Les domestiques passent, je n'entends pas le bruit de leurs pas. Je ne pense point à ton charmant visage, et je le vois. Je n'entends pas ta voix, et elle retentit à mon oreille. Quel charme ! Qu'on m'explique comment il se fait que l'on sente la pensée sans penser réellement. Je vais mourir jeune. Ma pauvre mère Hamel a frémi ce matin. Elle m'a dit « Mélanie, tu es bien pâle. Tes yeux sont brillants. Tes boucles de cheveux sont en désordre. Tu n'es point parée. Tu n'es plus soigneuse. » « Y est-il » ai-je répondu. « Oh, ma fille, a-t-elle dit, ne descends pas dans la tombe, car nos mains doivent être jointes et tu m'entraînerais avec toi. » « Non, non, ai-je dit, je ne mourrai pas tant qu'il vivra. Mort, j'irai le rejoindre. Puisque la tombe est notre couche nuptiale, la mort tiendra la torche de notre hyménée et la nuit de notre noce funèbre sera éternelle. » Madame Hamel a frémi, pauvre femme. Joseph, j'ai reçu ta lettre. J'ai baisé 100 fois ces caractères chéris. Ils seront toujours sur mon cœur. Oui, mon chéri, oui, je suivrai les ordres. Je vivrai pour toi. J'attendrai avec impatience cet âge où tout sera mort, excepté nos cœurs, qui ne mourront jamais. J'ai trop de joie pour exprimer quelque chose. Adieu pour aujourd'hui. Je vais m'asseoir et toute la journée regarder les nuages en y cherchant ton image chérie. Joseph, notre banquier est venu. Il a été surpris de me voir aussi changé. Il a appris ton départ avec peine. Il paraît vouloir prendre beaucoup d'intérêt à moi. Je crois que c'est un bien honnête homme et une belle âme. Le banquier, M. William Badger, est revenu. Il a dit que je devrais me marier. Il me l'a prouvé. J'ai tâché de ne pas entendre ses blasphèmes. Moi, me marier ? Oh, Joseph, je préférerais 100 fois mourir. Monsieur Badger m'a amené aujourd'hui un monsieur qu'il nomme Maxandy. Il me déplaît. Sa figure, quoique belle, respire une sorte d'énergie qui n'inspire à ceux qui la voient que l'idée d'une puissance malfaisante. « Grand Dieu, c'est à Monsieur Maxandy que Monsieur William Badger veut me marier. Je reviens d'un bal où j'ai été bien malheureuse. On me criait aux oreilles que Monsieur Maxandy a 5 millions, que je serais heureuse et souveraine. « Comment, ma chère petite, me disait Madame Badger, cela ne vous étonne pas ? Mais voyez donc comme toutes les mères et les jeunes demoiselles saluent Monsieur Maxandy. Voyez comme elles l'appellent des yeux. Il n'y a que lui dans l'assemblée. Madame, ai-je répondu, Monsieur Maxandy ne me plaît pas et ne me plaira jamais. Madame Badger m'a quittée et j'ai été m'asseoir à côté de ma pauvre mère Hamel, qui, vêtue somptueusement et au milieu de cette éclatante fête, n'endormait pas moins le plus décemment possible. Madame Badger est revenue me présenter M. Maxandy et j'ai été forcée de danser avec lui. Je n'aime point cet homme et tout le monde veut que je le chérisse. Joseph,
Je te dois toute la vérité, et les moindres sentiments de mon cœur t'appartiennent. Je t'avouerai donc qu'au milieu de cet entraînement produit par le spectacle des plus belles femmes de Paris, des plus riches, des plus fraîches parures, au milieu des conquêtes de luxe, j'ai eu un mouvement d'orgueil en me voyant proclamée par les regards de chacun la reine de cette assemblée. J'étais simplement vêtue avec cette robe de mousseline que tu m'as donnée. Cette simplicité m'a fait plus remarquer que ne l'ont été les femmes dont les parures étincelaient de pierreries. Ah, je n'ai brillé que parce que quelque parcelle du feu qui consume mon cœur sera venue resplendir sur mon visage. C'est donc à toi que j'ai dû ce triomphe. Mes yeux se sont souvent portés sur ces coins solitaires où mon Joseph se plaçait toujours, et mon âme t'adressait là tous ses vœux, toutes ses prières. On me proclame la femme de Monsieur Maxandy. Je ne sais comment cela s'arrange, mais vraiment ces gens du monde ont un art de vous faire parler, d'interpréter le moindre regard, le moindre sourire. Ah, Joseph, pourquoi n'es-tu pas là pour me défendre des séductions de ces gens de salon? Si je ne m'en tenais pas à un « non » bien décidé, je crois en vérité que l'on me marierait malgré moi à Monsieur Maxandy. Je ne conçois pas l'acharnement de tous ces gens-là. De quelle importance est-il donc pour eux que je me marie? Ne peuvent-ils pas laisser tranquille une pauvre fille qui ne demande qu'à gémir toute seule et dont le cœur est à jamais donné? Mon ami, Joseph, me pardonneras-tu? J'ai fait une imprudence. Je suis vive, légère. Enfin, je suis femme. On m'a encore amené ce Maxandy. Je l'ai reçu. Il est revenu le lendemain. J'ai fait refuser ma porte. J'ai voulu sortir. Ma calèche s'est trouvée cassée. On ne peut pas deviner comment. Monsieur Badger m'écrit que, d'après ce qui s'est passé, j'ai commis une grande malhonnêteté. Il croit que je dois aller au bal auquel Monsieur Maxandy vient de m'inviter. Je réponds que j'irai, mais je compte, au milieu de l'assemblée, dire que je ne veux épouser personne, parce que je suis mariée. Monsieur Madger doit m'envoyer sa voiture. Ce matin, Joseph, je suis triste. C'est la voiture de Monsieur Maxandy qui viendra me chercher. Je n'ai plus le temps de dire non. D'ailleurs, c'est la dernière fois que je sors. Joseph, c'est aujourd'hui le jour que tu m'as quitté. Ce jour doit m'être malheureux. Un horrible pressentiment m'assiège. À toute minute, mon cœur se gonfle et je suis inquiète. Je viens de me mettre à la croisée. Il y a des hommes dans la rue. Ils causent ensemble. Leurs figures me déplaisent. Il me semble qu'ils montrent ma maison du doigt. Oh, jour malheureux! Chaque chose que j'envisage ne m'apparaît que sous un aspect désagréable. Je suis plus abattue que si je devais marcher à la mort. J'ai grondé Finette pour un rien. La pauvre enfant s'est mise à pleurer. Et le spectacle de ses larmes a fait couler les miennes. Joseph, je m'habille pour le bal. Je suis habillée. Madame Hamel me regarde avec étonnement. Elle me dit que je suis changée à faire peur. La voiture arrive. Adieu, chérie. C'était ainsi que finissait le journal de la tendre Mélanie. En l'achevant, le vicaire sentait sa raison s'égarer. En ce moment, on le dirigeait vers la rue de la Santé. Il entre dans la maison de Mélanie. Finette était sur la porte. « Finette, » dit-il en pleurant. « Mélanie, Mélanie !»« Savez-vous où elle est ?» demanda la femme de chambre. « Depuis 10 jours qu'elle est partie pour le bal de Monsieur Maxandy, elle n'est pas revenue. Et j'ai eu beau me rendre chez Monsieur Badger, on m'a dit que Monsieur Badger n'y était pas et que tout le monde a été à la campagne. » « À la campagne, en hiver ?» s'écria Joseph. « Sotte que tu es !»« Finette, » reprit-il, « je te demande pardon. » »« Oh, pauvre Mélanie » Là-dessus, le vicaire, montant précipitamment, parcourut avec un sauvage délire ces lieux pleins de Mélanie. Il se précipita sur le lit qu'elle avait occupé, il embrassa sa plume, son piano, il s'agenouilla devant la toilette qu'elle avait quittée avant d'aller au prétendu bal d'Argo. Il pleura à l'aspect du charmant désordre de sa chambre à coucher. Il donna toutes les marques d'une véritable folie.
Et Finette, stupéfaite, le regardait avec un étonnement dont elle ne pouvait revenir.
« Où est mademoiselle ? » demanda-t-elle.
« Où elle est, Finette ? Elle est au fond d'un cachot, au pouvoir du plus infâme brigand que le soleil ait éclairé dans sa course. Seule, je l'ai entrevue sans la reconnaître. Oh, Mélanie, je jure de te délivrer, de te venger, et le glaive des lois tombera sur la tête de ce féroce pirate. »
Comme mademoiselle doit être mal, dit Finette, elle qui aime tant les petites recherches. Elle est sans femme de chambre, qui donc la soignera, l'habillera? Ah!
Et Finette se mit à pleurer.
Ai-je de l'or? S'écria subitement le vicaire. En ai-je assez?
Et il tira sa bourse et son portefeuille.
De l'or? Et tenez,
dit Finette en ouvrant le secrétaire.
« En voilà plein les tiroirs !»
Le vicaire s'empara de tout ce qu'il trouva.
« Pour faire la guerre, s'écria-t-il, il ne faut que cela. Allons, Finette !»
Joseph descendit les escaliers en courant et il se remit dans sa chaise de poste.
« Postillon, s'écria-t-il, un louis pour boire et au galop sur la route que tu viens de parcourir. Il faut que je sois demain dans les Ardennes. »«
Dans les Ardennes ? » s'écria Finette. « Oh, ma pauvre maîtresse !»
À chaque poste, le vicaire jette de l'or en s'écriant « Des chevaux ! Des chevaux ! Un courrier en avant ! Un louis au postillon ! Je paierai des chevaux que l'on pourra crever !» Et le vicaire, emporté par 4 chevaux, allait comme la foudre. Laissons-le courir aussi vite que les ambassadeurs qui se rendent à un congrès et revenons à Vence-la-Pavée. Chapitre 24. Le maître de poste de Vence-la-Pavée tenait une auberge justement renommée, et comme il était aussi le maire de l'endroit, les beaux esprits du village prétendaient que plus d'un mariage ébauché dans le jardin de l'aubergiste se consommait également dans le cabinet du maire. Aussitôt qu'il s'élevait une dispute entre les buveurs, le maire paraissait en même temps que le cabaretier. Et malgré la loi qui veut que les cabarets soient fermés à 9 heures et que passé 10 heures l'on ne danse plus, le maire hésitait à sévir contre le cabaretier sur cet article et le maître de poste les conciliait tous deux. Monsieur Gargarou, c'est le nom de ce personnage, était digne d'être ministre d'État, bien que le nom de Gargarou ne prête guère à l'annoblissement et à la pairie. Quoi qu'il en soit, celui de nos princes qui passa par Vence-la-Pavée ne le jugea digne que de la mairie. Aussi le bonhomme était-il fier de sa place, et quoique bon vivant, peu tracassier, obligeant, il ne badinait jamais sur un certain article. C'était le dévouement que tout bon français devait avoir pour le gouvernement. On lui aurait tout fait faire pour le gouvernement. Pour lui, le mot « gouvernement » était un talisman. Et lorsque je suis passé à Vence-la-Pavée, je me suis convaincu par moi-même qu'il ignorait la forme et la base de notre gouvernement. Nous l'avons laissé coucher à côté d'une jeune et jolie femme. Nous ne le reprendrons pas cependant à ce moment-là, pour son honneur. Ce matin, il descendit visiter ses écuries et montrer partout l'œil du maître, car il était très soigneux. Après cette visite générale, il se rendit à la grande salle noire et enfumée qui servait de salon. « Ma femme n'est pas levée ? » demanda-t-il.
« Non, monsieur, » répondit une servante assez jolie qui tenait un bouillon.
« Et pour qui ce déjeuner ? »
« Pour la vieille femme que nous avons ici depuis 8 jours et que nous ne voyons que le matin et le soir. Vous savez ?»
« J'ai peur, répondit l'aubergiste, qu'elle ne trame quelque chose contre le gouvernement. Une femme qui ne dit rien, qui paraît triste, si elle était jeune, on pourrait interpréter sa tristesse. Mais enfin, cela n'est pas clair, et je vais lui parler. Quand on est maire, on doit au gouvernement de faire une police exacte. »
Boutonnant donc sa redingote brune tachée en 1000 endroits, il s'avança vers le coin où une vieille femme attendait patiemment son déjeuner. Elle offrait dans son habillement les contrastes les plus singuliers. Son bonnet de dentelle avait un nœud de ruban presque élégant et se rattachait sous son menton par des rubans de satin blanc. Sa figure portait tout le caractère d'une douceur et d'une bonté touchante, mais le voile d'une profonde souffrance était jeté sur son visage. Elle ne prenait pas garde au cachemire qui couvrait ses épaules, et, le coude sur la table malpropre de l'auberge, elle levait ses yeux au plafond noirci, comme pour implorer le secours du ciel. Sa robe n'était pas en harmonie avec le luxe de cette toilette de son buste. On eût dit avec raison qu'elle venait de quitter un somptueux costume pour ne garder ce qu'en termes de l'art de la toilette on nomme, je crois, un jupon de dessous. Et ce jupon de toile assez fort, garni d'un simple effilé, contrastait d'autant plus avec le reste qu'il était crotté, et que les bas de soie et les souliers de satin noir de l'étrangère avaient aussi leur part de boue. Cette description doit donner une idée de l'insouciance de cette vieille femme, et ses larmes indiquent assez que c'était Madame Hamel. « Madame, dit Monsieur Gargarou, vous paraissez bien affligée. Est-ce que les affaires qui vous ont amenée de notre côté ne vont pas à votre fantaisie? Auriez-vous besoin de quelque chose? Si vous ne nous dites rien, nous ne pouvons pas vous aider. » Ah, répondit Madame Hamel, malheureusement, je suis vieille, je ne connais personne dans ce pays-ci, et je ne puis que pleurer sur l'événement fâcheux qui m'arrive. Car où trouver des gens pour me servir, quand il faudrait se dévouer pour moi? Comment donc? Mais avec de l'argent, on trouve du dévouement, de tout. Mais en avez-vous? Des sonnettes? Hélas, je n'ai que la bourse que j'ai emportée pour aller au bal. Ah, vous alliez au bal, dit l'aubergiste avec un air de curiosité et de défiance ironique. Oui, et l'on me l'a enlevé, s'écria Madame Hamel en pleurant. Ah, vous n'avez pas d'argent, reprit l'aubergiste avec effroi en regardant le bonnet et le châle de Madame Hamel et les adaptant déjà à la tête et aux épaules de Madame Gargarou. « Non, je n'ai plus de fille, non. » Et la pauvre vieille essuya ses yeux avec un beau mouchoir de batiste. « Les barbares, me refuser de m'emprisonner avec elle. »«
Elle est folle, » dit Gargarou en lui-même.
« Ah ah !» reprit-il en voyant le papier que le vicaire avait laissé sur la table. « Voilà ce que m'a demandé le jeune homme de cette nuit. Adressez le tout à Monsieur Joseph, chez Mademoiselle de Saint-André, rue de la Santé. Et puis voilà 5 francs.
« Joseph ? Joseph ?» s'écria Madame Hamel. « Il a passé par ici ? » ?»«
Eh bien, qu'avez-vous donc ? » ?»«
Elle est folle.
Hé, hey, Jacqueline !»
« Serait-il possible ?» continua Madame Hamel. « Montrez-moi cela. Oui, c'est bien son écriture. Le pauvre enfant. Ah, oh, si je l'avais vu, ma fille ne serait plus en prison. »
Là-dessus, sans attendre son déjeuner, elle sortit et se dirigea vers la forêt.
« Oh !» dit l'aubergiste en la suivant des yeux. « Je crois que la pauvre femme ne cherche guère à nuire au gouvernement. Elle paraît avoir de quoi payer. » Ainsi, laissons-la tranquille.
Lorsque les gens d'Argot eurent conduit Mélanie au château de Vence, ils en chassèrent impitoyablement Madame Hamel, dont ils craignirent l'âge et l'expérience. Mais en même temps, ils la prévinrent qu'une dénonciation compromettrait la vie de sa fille, qui cesserait d'être en sûreté si quelque entreprise venait à être tentée pour sa délivrance. La femme du contremaître eut beau pleurer et supplier qu'on la laissât avec sa fille, rien ne put fléchir la détermination des gens du pirate. Elle sortit donc du château en robe de bal et se sauva à l'auberge du Grand Hiver, en se dépouillant toutefois de sa redingote de satin blanc. Alors, tous les matins, elle se rendait au château, et s'asseyant sur une pierre, elle contemplait la fenêtre de la chambre où était Mélanie. Et lorsque la jeune fille se promenait sur la terrasse, elle échangeait quelques mots avec elle. Puis, sur le soir, elle revenait coucher à son auberge. Ainsi, l'on doit voir où courait la bonne femme lorsqu'elle apprit que Joseph avait passé pendant la nuit à Vence-la-Pavée. Elle hâte le pas et se hasarde à courir, malgré son âge, pour arriver à cette pierre sur laquelle Mélanie jetait toujours les yeux en s'éveillant. Mélanie n'avait pas quitté cette terrasse presque ruinée et entourée d'eau. Elle était encore à la place où le vicaire l'avait aperçue. Elle regarde le village et de loin reconnaît sa seconde mère. « La voici !» s'écria Mélanie. « Rien ne l'arrête, le froid, la pluie, et pour me voir, elle brave tout, comme pourrait faire un amant. Oh, digne mère, reçois mon hommage. Avant que tu n'arrives, que ma pensée t'entoure et te récompense. » « Ma fille ! Ma fille !» s'écria Madame Hamel d'aussi loin qu'elle put voir Mélanie. « Il est venu ! Il est venu ! Réjouis-toi, il n'est pas mort !»«
Qui, ma mère ?»«
Joseph !»«
C'était donc lui ?»
dit tristement la jeune fille pâle et tremblante. « Mon cœur me le disait. Oh, ma mère, figure-toi que cette nuit, trouvant mon appartement trop petit pour ma douleur, je suis venue ici, gardée par les deux Argus qui ne me quittent pas. » J'ai chanté douloureusement cette plainte qui marqua nos derniers regards et nos adieux. Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyr, anime la fin d'un beau jour. Tout à coup, j'ai vu une lumière paraître à cette chaumière. Cette soudaine lueur m'a frappée comme un rayon d'espoir. Je ne pourrais m'expliquer ce que j'ai ressenti. Sans croire que ce fût Joseph, un pressentiment involontaire me criait « Si c'était lui !» Tu me vois, ma mère, encore en proie à cette méditation, et tu dis que c'est lui ? Oui, ma fille, mais pourquoi nous réjouir ? Il a fui comme une ombre, il s'en allait à Paris, car il a demandé quelque chose dans ce village, en écrivant qu'on le lui envoya rue de la Santé. Et je n'y serai pas. Oh, ma mère, quel supplice ! Tire-moi de cette odieuse prison, ou j'y meurs ! « Ma fille, ne prononce pas ce mot. Tu me fais trop de peine. Attendons Joseph. »« Mais comment saura-t-il que je suis ici ?» Madame Hamel réfléchit longtemps, et après avoir ramassé la somme totale de son intelligence, elle s'écria « Je vais lui écrire. » Mélanie sauta de joie en frappant dans ses mains. « Oh, ma mère, écris, écris bien vite. Si je revois Joseph, nous serons sauvés. Écris. » Comme elle achevait ses paroles, un laquais à figure rébarbative se dirigea précipitamment vers Madame Hamel. « Allons, la vieille, vous ne pouvez plus rester là. »«
Comment ? Je ne puis plus rester là. Le terrain est-il à vous ?»«
Oui, allez-vous-en. »«
Mais qu'est-ce que cela veut dire ? » s'écria Mélanie. « Ne m'avez-vous pas dit que la volonté du maître de ce château était que j'y commandasse en souveraine ?»«
Oui, madame. » répondit respectueusement le laquais en ôtant son chapeau. « Mais tant que vos ordres ne seraient pas contraires à la surveillance qu'il a ordonné d'exercer autour de ce château. Et M. Navardin a jugé que cette femme ne devait plus approcher d'ici.
« Et pourquoi ne l'enfermez-vous pas avec moi ? Je le veux !»
reprit Mélanie. « Monsieur Navardin ne le veut pas, madame. Sans cela... »«
Allons, » dit Mélanie avec une sombre résignation. « Adieu, ma mère !»
Madame Hamel n'eut pas la force de répondre. Elle jeta sur sa fille un douloureux regard et se retira jusqu'à ce que le domestique fût satisfait de la distance à laquelle elle se tint. Là, elle agita son mouchoir lentement et Mélanie lui répondit en faisant le même geste. « Madame, » dit un autre homme à Mélanie en la regardant respectueusement, « il est impossible que vous restiez ici. » si vous continuez à faire de pareils signaux.
« Mais monsieur, je suis donc réellement prisonnière ?»«
Je ne dis pas cela, madame, mais je réponds de vous sur ma tête, et celui à qui j'aurais affaire si vous nous échappiez, et homme à me la faire sauter. »«
Eh bien, monsieur, votre tête est fortement en danger, »
dit Mélanie avec dépit. « Alors, madame, vous ne sortirez plus de vos appartements. Rentrez-y. »
« Et si je ne voulais pas ?»
reprit fièrement Mélanie. « Je serais contraint de vous y forcer. » Mélanie pleura, baissa la tête et suivit à pas lents le farouche Navardin. Ce dernier la conduisit à un appartement somptueux dans lequel elle demeurait depuis 10 jours. Elle s'assit dans un fauteuil et, posant sa jolie tête dans ses mains, elle se mit à penser à son frère, dont l'image chérie lui avait apparu le matin. Le temps était brumeux, la chambre vaste n'avait que deux grandes fenêtres garnies de rideaux de lampasse rouge, de façon qu'il régnait une sorte d'obscurité. Mélanie devint plus pensive et une teinte de chagrin se mêla à toutes ses réflexions.
« Que va-t-il m'arriver ? Ils n'ont pas encore prononcé le nom de celui qui m'a enlevé, mais tout me porte à croire que c'est M. Maxandy. Ils paraissent le redouter. S'il est riche, puissant et servi par des hommes pour qui ses ordres sont absolus, comment Joseph fera-t-il pour me délivrer ? Il risquera sa vie. Mais non, M. Maxandy ne peut pas m'épouser contre ma volonté. Il y a des lois. Oh, Joseph, arrive ! Arrive ! »
À ces mots, elle tira de son sein une lettre toute usée et dont chaque pli avait formé un lambeau. Une soie verte en rattachait tous les morceaux. La jeune fille la déplia avec une soigneuse précaution et son œil parcourut ses caractères chéris.
« Funeste amour que je ne puis arracher de mon cœur !» s'écria-t-elle après avoir lu. « Tu y régneras encore à mon dernier soupir !»
Comme elle prononçait ces mots, un grand bruit se fit entendre dans la cour de cet immense château. C'était Argot, Vernier et l'Auvergnat qui arrivaient d'A, par des chemins détournés.
« Eh bien, Navardin, quelle nouvelle ?» demanda Maxandy.
« Capitaine, votre jeune poulette est toujours ici, pleurante, mourante, parlant de se tuer. Du reste, elle n'est pas d'une garde bien difficile. Elle est gentille comme une frégate de 24 canons. »
« Et qu'avez-vous fait de la vieille femme ?» demanda Vernier.
« Nous l'avons mise à la porte, sur le champ. »«
Imprudent !» s'écria Maxandy. « Imprudent ! Elle va dire partout que nous avons enlevé cette jeune fille. Qu'on la rattrape, et que sur le champ on la mette sous de bons verrous, jusqu'à parfait achèvement de notre affaire.
« Vernier, reprit-il, tu vas prendre le commandement de la forteresse. Et toi, Navardin, remets-toi en chaise de poste et conduis-moi ce garçon-là en Auvergne. Tu lui compteras 12 000 francs. Je te les enverrai à Clermont par budget. »
À ces mots, Navardin jeta un coup d'œil oblique au pirate pour savoir s'il n'était pas nécessaire que l'Auvergnat mourût en route d'un coup de sang. Mais Argot lui répondit « Ah non, fais ce que je te dis et rien de plus. »
Le matelot regarda l'Auvergnat, étonné, et le poussa vers la chaise en lui criant « Marchons !» Ils partirent. Argot, après avoir demandé dans quel appartement on avait placé Mélanie, se dirigea vers la chambre où la tendre amante du vicaire écoutait avec attention le bruit inaccoutumé qui interrompait le silence de cet antique château. Elle se lève en entendant des pas, elle court.
« Ah ! » s'écrie-t-elle. « C'est vous, monsieur Maxandy ? Je suis donc sauvée ?»
La naïveté de cette exclamation fit sourire Argot malgré lui.
« Mademoiselle, lui demanda-t-il, comment avez-vous trouvé ce séjour ?
« S'il m'avait été permis de le parcourir, je pourrais donner mon avis. »«
Comment ? » s'écria vivement Argot. « J'avais ordonné de vous laisser libre. »«
Et quoi, monsieur ? » interrompit Mélanie. « C'est donc par vos ordres que j'ai été enlevée ?
Avec quelle douleur je me vois forcée de changer d'opinion sur votre compte. Je vous estimais, monsieur. »
dit-elle avec un accent de reproche.
« Et dans quel but ? Pourquoi ? À quel titre en agissez-vous ainsi envers moi ? Savez-vous à quoi vous vous exposez ?
Mademoiselle, répondit le forban en tâchant d'adoucir la rudesse de sa voix et de son visage.
Croyez-vous que je n'ai pas vu sur votre figure une forte indécision quand il a été question de notre mariage ? Vous ignorez à quel excès l'amour peut porter un homme de mon caractère. N'avez-vous donc jamais examiné l'effet que vous produisez sur tous ceux qui vous voient ? « Ah, mademoiselle, vous avez allumé dans mon cœur une effroyable passion. Je vous avoue cet amour avec la franchise qui distingue les âmes énergiques. Je désire votre possession légitime. Elle seule peut m'empêcher de mourir. »«
Alors, vous mourrez, mon cher monsieur Maxandy, » dit-elle en penchant gracieusement sa jolie tête.
« Car jamais homme n'aura rien de Mélanie. Elle a tout donné. »
les 30 canons de ma dernière frégate. Vous en aurez menti !» s'écria le Forban en colère. « Et lorsque je vous ai enlevé, c'était pour vous forcer à m'épouser. Comment pouvez-vous reparaître dans le monde après avoir passé 15 jours chez moi ?»«
Je n'irai plus dans le monde. »«
Bon, mais vous ne sortirez d'ici que morte. Ou ma femme. »
« Pour morte !» dit Mélanie. « La mort est la seule chose que je souhaite. Ainsi, c'est me servir. Pour votre femme, cela ne sera jamais. Jamais !»«
Mais, petite scélérate, vos sourires et votre tête penchée n'empêcheront que vous ne soyez en mon pouvoir et que je ne puisse faire de vous tout ce que je voudrais. »«
Non ! Non ! » !»«
Comment cela ?» Parce que les malheureux ont toujours un refuge qu'on ne peut leur enlever.
Et lequel ?
La mort.
Oh, que je vous empêcherai bien de mourir.
Monsieur Maxandi, la pensée et la mort sont les seules choses qui soient hors du pouvoir des tyrans et des scélérats. Rien ne les a servis.
Comment, mademoiselle ? Vous refuseriez cette vie aimable, pleine de jouissances et de plaisirs que je vous offre ?
Figurez-vous que vous commanderiez à tout, à commencer par moi, avec le despotisme d'un capitaine qui fait manœuvrer un sloop. Votre amour-propre sera satisfait sur tous les points. Vous serez reine. Je vous défierai de former un désir que je ne satisfasse, quand il exigerait même la mort d'un homme.
Tout cela et rien, c'est la même chose, interrompit doucement Mélanie. Un de mes rêves et une minute de méditation me donnent plus de jouissance que tous les plaisirs que vous m'étalez inutilement.
Mais vous ignorez ce que c'est qu'un mari, à quoi il est utile, combien il est tendre, ce qu'il procure de plaisir, vous n'en savez rien.
C'est vrai, mais je sais, dit-elle avec un fin sourire, que j'aime encore mieux un amant.
Oh, s'il faut n'être que cela! S'écria le matelot.
Que cela ? Dit Mélanie. À mon tour, je puis vous répondre, monsieur, que d'après ce que je vois de vous, il vous est à jamais impossible d'aimer, car un véritable amant n'afflige point ce qu'il aime.
Ta 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 ! Reprit Argot en colère. Ah, ça, petite folle, prenez garde à votre tête. Elle est trop jolie pour que ses beaux yeux se ferment à jamais. Vous me refusez.
« Oui !» dit Mélanie avec un geste d'horreur.
« Mais on a des motifs !» dit le pirate en pliant dans ce moment la rigueur de son caractère d'une manière étonnante devant la naïve simplicité de Mélanie.
« Aussi en ai-je, monsieur Maxandi, car ce n'est ni par aversion ni par un sentiment de haine que je vous refuse. Tout homme, fût-il prince, essuierait ce refus. Écoutez-moi, j'aime !» J'aime pour toujours.
Oh, pour votre salut, petite femme, ne prononcez pas ces paroles-là devant moi avec ce regard et cet accent. Croyez-moi, n'attisez pas un incendie.
J'aime, reprit-elle, un être qui aura sans cesse mon amour.
Cet homme, dit Argot en la contemplant avec le sourire de l'enfer sur ses lèvres,
cet homme ne vous accompagnait-il pas sur le vaisseau qui vous a ramené en France ?
« Joseph ! » s'écria-t-elle. « Mon frère, oui, oui, c'est lui. Oh, mon bien-aimé » dit-elle comme en délire.
« Oui, c'est toi, image chérie. Sur un bûcher, je te verrai encore. »«
Et vous croyez ?» reprit le pirate. « Et vous croyez que je n'ai pas le moyen de vous empêcher de mourir et celui de vous épouser ? Allons, ma belle enfant, vous serez Madame Maxandi. » Lorsqu'on a comme moi 5 millions et 12 hommes dévoués, on a tout ce que l'on veut. Aucune puissance humaine, s'écria-t-il en fixant Mélanie de manière à la faire pâlir et frissonner. Aucune puissance humaine ne peut vous tirer d'ici. Et forcé de vous rendre, de renoncer à vous, je vous tuerai.
Monsieur, monsieur, au secours, au secours! S'écria Mélanie épouvantée de l'horrible expression de ce visage.
« Au secours » répéta-t-il avec un accent d'ironie. « Vous oubliez que personne ici n'a d'oreille ni Dieu pour vous. Tout est à moi. Pensez-vous de bonne foi que je vais laisser arriver jusqu'ici votre amant ?»
À cette idée, Mélanie resta comme une statue de marbre.
et regarda le pirate avec une expression de stupeur qu'il est impossible de rendre. Jamais son esprit chaste et pur n'avait pu concevoir l'idée d'une scélératesse pareille. Et dans ce moment, Argo semblait, par son attitude et la férocité de son visage, être le crime lui-même. « Je sais où est Joseph, » reprit-il avec un sourire sardonique. « Je l'ai vu cette nuit, et je puis vous répondre, » ajouta-t-il en serrant les lèvres, « que vous ne le verrez plus. »«
Quoi ? Vous savez qu'il est à Paris ?»«
À Paris, » dit le pirate surpris. « Est-ce qu'il ne serait pas mort ?» se dit-il en lui-même.
« Il a passé, je l'ai vu, » reprit Mélanie. « Et
vous l'avez vu ?»
lui demanda encore Maxandy.
« Oui, son aspect a rafraîchi mon âme. Le malheureux, il allait à Paris. »
En ce moment, son visage avait une expression divine. On eût dit une de ces saintes dont la tête est entourée d'une auréole céleste.
« Ah, il est à Paris, » dit le Forban. « C'est bon, je l'ignorais. »
Mélanie pleura de désespoir en voyant que sa candeur donnait des armes contre elle. « Ma belle enfant, je vais envoyer mes gens en campagne, car ce Joseph doit revenir par ici. Alors, dans peu, il vous faudra choisir entre ma main et la mort de votre amant. Aussi bien je l'ai déjà juré, et c'est un grand miracle. »
« Grand Dieu !» s'écria Mélanie. « Où suis-je ?»
Et elle se laissa tomber dans un fauteuil en versant un torrent de larmes. « Vous voyez, » dit froidement Argo, « toute l'étendue de mon amour. Il me rend capable des plus grands excès. Ma reine, je vous laisse réfléchir à ces propositions. Mais je veux vous donner un fil pour vous tirer du labyrinthe où elles vous entraîneront. « Souvenez-vous bien que de ce que je dis à ce que je fais, il n'y a qu'un pas. Et ce pas, il ne me faut qu'une minute, une seconde pour le faire. Adieu. Ne pleurez pas, les pleurs sont inutiles. Prenez une résolution. Et il n'y en a qu'une bonne. »«
Grand Dieu !» répéta Mélanie en se tordant les bras de désespoir. « Tu ne me secourras donc pas ?» Je souffre presque autant que lorsque Joseph m'a dit adieu. »
Argo la contempla, car elle était plus que belle. Puis il s'en alla en lui lançant un regard de maître, et il la laissa dans un horrible état de souffrance. Elle pleura toute la journée, toute la nuit. Elle ne voulut rien prendre, et son esprit fatigué par tant de secousses ne put s'arrêter à aucun projet raisonnable.